Bienvenue sur Fréquence Mistral dans l'émission Passionnément Vôtre, où chaque semaine je reçois une personne qui vient nous parler de la passion qui l'anime. Et aujourd'hui, bien sûr, une nouvelle invitée, une femme, Flora Berger, qui nous parlera de plusieurs de ses passions, puisque c'est une femme passionnée, et on en parle dans un instant. Et bonjour Flora Berger, bienvenue à Fréquence Mistral.
Merci de me recevoir et bonjour à tout le monde.
Et on va parler de tout ce parcours qui a mené à Flora Berger. On en parlera tout au long de l'émission, mais en fin d'émission plus, on parlera de la sortie de votre dernier livre. On va venir à ce parcours, donc l'amour du verbe, l'amour des mots, savoir comment ça a commencé, et puis toutes ces passions qui se rencontrent, puisqu'il y a aussi la passion de la montagne, du conte. On va mieux faire connaissance. On se connaît depuis quelques années de rencontres comme ça, mais on va mieux se connaître encore aujourd'hui, et ravie de vous recevoir. Alors, l'écriture, l'amour des mots, depuis quand, Flora Berger?
Depuis toute petite, je ne savais pas encore écrire, ni lire, qu'en fait je faisais semblant de lire, c'est-à-dire que je prenais un livre en fait, je l'ouvrais, et puis devant mes petits camarades tout admiratifs, je faisais semblant de lire et j'inventais au fur et à mesure, donc j'avais déjà envie de créer avec les mots, hein. Donc toute petite, et puis après j'ai commencé à écrire des poèmes, mais vraiment... À peine savais-je manier un crayon que j'essayais déjà de faire des petits vers. Et puis ça a continué comme ça. Et puis en classe de, il me semble que c'était en classe de 5e, j'étais interne à Castellane à l'époque. J'ai écrit mon premier livre.
En 5e.
Oui, j'avais 11 ans, donc je crois que c'est... Non, mais un petit peu plus, ça doit faire 12 ans.
Hein. Alors, un livre de combien de pages et qui raconte quoi?
Ça tenait un cahier d'écolier.
Ouais.
Donc, je ne peux pas savoir ce que ça... Mais en tous les cas, c'était vraiment un roman. Il y avait vraiment une histoire complètement inventée. C'était l'histoire d'un petit village qui était pris sous les eaux d'un barrage.
Ah, déjà?
Oui, c'est marrant. Hein, ouais. Et il y avait un vieux monsieur qui était peintre, qui habitait dans ce village, tout seul. Un vieux village où il habitait plus que lui, quoi. Hein. Et une petite fille le découvre, ce monsieur, puis elle va vivre cette grande crainte du barrage avec lui. Après, je ne me rappelle plus comment ça se terminait, mais bon, déjà toute petite.
Déjà en 5e. Et en classe, donc, remarquée par les professeurs?
Ah oui, voilà, ouais. Complètement. Ouais.
Et vous aimiez réciter aussi, les récitations, enfin, ça c'est, on apprend, c'est encore différent.
Alors, j'ai jamais aimé apprendre par cœur, parce que je suis feignante à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'après, le métier de conteuse m'a mieux convenu que le théâtre, parce que j'ai fait un essai de théâtre pendant 3 ans. Alors, le théâtre, ça me plaît beaucoup, mais alors, le fait de devoir tout apprendre par cœur, ça, pour moi, c'était impossible, quoi. Alors que conteur, on ne récite pas du tout. On a les images qui défilent devant soi, dans sa tête, et on les décrit, en fait. On raconte. À chaque fois, les mots peuvent changer, et on s'adapte au public. Donc, ça me convient beaucoup mieux, c'est vrai.
Alors, de l'écriture au conte, il s'est passé beaucoup de choses entre le moment de devenir conteuse, d'exprimer.
Oui.
Il y a eu beaucoup de livres. On peut parler peut-être du premier. Donc, le premier, c'était en 5e, le petit cahier d'un roman.
Voilà.
Il y a eu de l'écriture de poésie aussi très, très tôt.
Mais tout ça n'a pas été édité. Ça,
voilà, c'est pour vous. Et voilà. Le premier livre édité, alors, ça a été en quelle année?
Le premier livre édité, il me semble que c'était en 1990. Et c'est la même année où j'ai commencé à conter. Parce qu'à l'époque, il y avait les Oralies, le festival de conte des Oralies. Et qu'on m'a invité à... C'est un conteur qui m'a dit « Oh là là, mais viens, prends le micro. » Il y avait une soirée comme ça, c'était à... dans le Verdon, et il m'a dit « Mais essaye-toi à raconter ». Et donc, dans le premier petit livre que m'avait édité un petit éditeur de Thouars, il y avait un conte dedans. Et bon, je dis « J'essaye ». Et puis ça a été une révélation, c'est-à-dire que tout le monde m'a dit « Oh, mais tu sais bien raconter, mais tu es douée, continue ». Et c'est parti de là, et c'était il y a 25 ans. Et je suis partie de là, et puis j'ai commencé petit à petit à compter, un peu plus. Et j'ai attendu 6 ans, où je comptais quand même de plus en plus régulièrement pour devenir professionnelle. Et au moment où j'ai commencé à être professionnelle du compte, j'intervenais comme prof de français, remplaçante, hein, parce que je n'ai pas le diplôme, au CFA de Digne. J'ai fait un remplacement qui a duré quand même pas mal de temps, hein, plus d'un an.
Est-ce qu'il y a eu des études littéraires ?
Non, moi, je n'ai pas fait d'études littéraires. Moi, j'ai 3 formations Bac plus 2.
Oui.
donc, aucune n'a mené plus loin que ça.
Et dans quel domaine, alors ?
Dans l'animation. J'ai un diplôme d'État d'animation. J'ai un BTS de tourisme. Voilà, je suis maître nageur. Sauveteur aussi, ça n'a rien à voir.
Oui, voilà. Mais c'est...
Je suis très éclectique. Ouais. Voilà. Choses qui me plaisaient, en fait. Hein. J'ai toujours fait que ce qui m'a plu, hein. Ça, c'est clair. Hein.
Donc, le premier livre édité, c'est venu comment, l'envie d'éditer ?
Alors, des fois, j'ai du mal à retrouver, hein, parce que j'ai quand même un parcours assez, un petit peu quand même compliqué, finalement.
Et quel était le sujet de ce premier livre ? Est-ce que c'était déjà sur la montagne ?
Alors, j'étais journaliste. J'ai été journaliste à La Provence, qui s'appelait Le Provençal, pendant, plusieurs années. Après, j'en suis sortie parce que j'arrivais pas à obtenir ma carte de journaliste. Et que j'ai trouvé que c'était franchement pas honnête vis-à-vis de moi. Ben, je le dis, hein, ma foi, peu importe. Après, j'ai travaillé pour Nice Matin, mais là, pareil, ça a été une belle expérience, mais c'était un remplacement de quelqu'un. Donc ça a duré quelques temps. Et ensuite, j'ai fondé un journal moi-même qui s'appelait Top Loisirs 04.
Ah oui, je m'en souviens.
Voilà,
oui,
ouais. Et qui était distribué... qui était chez les libraires, mais c'était moi-même qui faisais tout, quoi. Je distribuais, etc. Et ça a duré quand même quelques temps. C'était juste après avoir été journaliste. Après, j'en ai eu un autre qui s'appelait La Gazette du Terroir. Et qui était distribué dans toutes les boules. C'était un gratuit, celui-là, parce que le premier, il était payant. C'était un mensuel de loisirs. Et le deuxième, il était distribué chez les boulangers du département. Pareil, je partais avec ma petite voiture, distribuée dans les boulangeries.
Et donc, c'était l'idée d'aller à la rencontre des gens du terroir.
C'était
qu'est-ce que ça contenait, la Gazette du Terroir ?
Oui, en effet. C'était pareil, c'était loisirs. C'était un petit peu plus branché écolo, parce que je faisais ça... avec l'imprimeur-éditeur qui se trouvait à Thouars, en haut, et qui s'appelait Joël Goncet. C'est pas les éditions de Haute-Provence, hein, ne mélangeons pas tout. Et puis Joël, il est parti, il est dans le Gers maintenant. Lui, c'est pareil, c'est un aventurier un petit peu. Et puis donc, à la fin de ces deux expériences-là, j'en ai eu un petit peu marre d'écrire que des articles. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus long, finalement. Et donc, j'ai sorti... Mais toujours avec Joël Goncet, qui était là. Hein, on vivait l'aventure ensemble, finalement, avec ce gars-là. Et donc, il a accepté de lancer une petite collection. J'appelle petit parce que c'était vraiment pas très épais. Hein, il y avait, je ne sais plus combien de pages, une trentaine... Je sais plus, non, une cinquantaine de pages. C'est des petits bouquins. Et j'ai sorti « Raconte-moi le Verdon »,« Raconte-moi l'Ubaye » et « Raconte-moi la truffe ». Puis après, ça s'est arrêté là. J'ai eu envie de rebondir sur autre chose. Après, Goncet est parti. Enfin, bon, après, l'aventure s'est poursuivie autrement. Voilà. Puis après, j'en suis venue à des romans. Et voilà.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, alors, l'écriture de romans, de poésie ? La poésie, vous avez laissé tomber pendant un temps ?
Oui, ça, c'était ma jeunesse. Hein. Oui. Comme beaucoup, quand on est jeune, on aime bien faire des poèmes, c'est vrai. On est bien inspiré pour ça. Mais moi, après...
Parce que vous avez fait beaucoup de nombreux voyages aussi.
Oui, et c'est vrai que les deux premiers romans, bien vu, parce que les deux premiers romans, c'est Raga, qui se passe du Haut-Verdon, de Courbon, là, près de Digne, donc, et qui ensuite entraîne le lecteur au Rajasthan indien. Et donc là, ça a été fait grâce à ce voyage au Rajasthan où j'ai été capable de peaufiner le scénario. C'est-à-dire que j'avais le scénario avant de partir. C'est ça qui est étonnant. Voilà, mais c'était vraiment un roman. C'était pas mon histoire. Par contre, j'étais sur les traces du roman, géographiquement. Hein. Après, il y a eu un livre que j'ai écrit 2 ans après avoir fait un sommet dans l'Himalaya. J'ai fait un sommet de 6200 mètres avec mon pote Jean-Baptiste Père, là, qui a été beaucoup mon pote de montagne.
Donc c'est quand même un exploit, 6000 mètres.
Non, c'est pas, y a, rien de tout ce que j'ai fait n'est un exploit, mais c'est vrai que c'est quand même déjà de l'alpinisme, oui. Quoi. Et donc c'est déjà, mais rien n'est exploit en fait. Il y a rien qui soit exploit. Ben non, chacun de nous développe un truc qui lui est propre et sur lequel il a plus ou moins des capacités. Et il n'y a pas de héros, il n'y a pas d'exploit, il n'y a rien de tout ça. Il y a des gens qui sont nés avec plus de muscles, d'autres avec plus de tête, d'autres qui ont les deux. Voilà, non, franchement, donc j'ai fait ce sommet, là, et après, j'ai été faire, toujours avec mon pote Jean-Baptiste, on a été faire c'est une randonnée un peu d'altitude, on va dire, hein, dans la région du Mont-Blanc. Et j'ai eu un lumbago aigu. Et on m'a redescendu en hélicoptère d'urgence à l'hôpital, etc. Et j'ai été hospitalisée d'urgence. Je suis arrivée de nuit à Aiglun, après un voyage de nuit abominable, à être malade, 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 parce qu'on m'avait fait de la morphine et que ça rend bien malade. Et c'est pendant cette immobilisation que j'ai écrit le deuxième roman adulte. Hein, parce qu'après, on verra qu'il y a une collection de romans jeunes publics que j'aime beaucoup, pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse. Et en tous les cas, ça a été mon deuxième roman adulte qui s'appelait donc Secret de Cime, qui se passe dans l'Himalaya, 2 ans après ce voyage dans l'Himalaya, et qui s'inspire donc des lieux sur lesquels nous avons grimpé avec Jean-Baptiste, et qui a été écrit en partie couché... immobilisé avec le lumbago aigu.
Ça, comme quoi, ça a eu
du bon.
Ouais, voilà.
Oui, tout à fait.
Donc l'écriture de romans à propos des voyages. Donc,
voilà,
les
donc
deux.
Des voyages, oui, en fait. Voilà. Là, je me suis servi des voyages.
Le voyage et être en contact avec la nature, c'est quelque chose qui vous habite aussi.
Ah oui, complètement.
C'est nécessaire.
Et après... Donc je vais enchaîner directement. Le voyage, c'est aussi le voyage sans aller forcément très très loin, parce que j'en suis venue petit à petit. C'est vrai qu'il y a donc une période de ma vie où pourtant j'étais pas très fortunée, mais je me débrouillais pour arriver à partir loin, parce que ça coûte très cher d'aller très loin aussi. Mmh. Et puis après, à une période de ma vie, je me suis orientée vers le voyage pédestre. En France, peut-être parce que j'ai eu un âne, justement. Je sais plus. Après, j'ai du mal de me retrouver
tout ça.
Il y a eu
donc les promenades, les balades avec...
Les raids, on va dire, les raids. Hein, ouais. Puisque là, j'appelle raid, ça va de 5 jours à beaucoup plus avec le dernier livre. Mais en tous les cas, à chaque fois, c'est une petite aventure. Et puis alors, vraiment, la France est un pays magnifique. La nature chez nous est variée et extraordinaire. On habite un pays de toute beauté. Et la marche est un voyage qui est une vraie aventure, même si on n'a pas pris l'avion, même si on part à pied de chez soi. C'est autre chose, c'est plus lent, mais c'est tout à fait extraordinaire. Et franchement, ça n'a rien à envier au voyage lointain. C'est autre chose, mais ça vaut vraiment la peine.
Donc, en marchant avec la compagnie d'un âne.
Oui, par exemple, un âne, et puis des fois, souvent, ça a été 2 femmes, un âne, un chien, ou 2 ânes, 2 ânes, puisqu'après j'en ai eu 2, et ça a commencé avec un. Et pourquoi ça a commencé par ça? Parce que, comment ça a commencé? Pourquoi est-ce que j'ai pris un âne? À un moment donné, en tant que conteuse, j'avais envie de me trouver une spécificité, et il se trouve... que j'ai toujours été quelqu'un qui a bien aimé défendre l'opprimé, hein, le défenseur de l'opprimé. Mmh. Quand j'étais à l'école de tourisme, je me souviens être monté sur la table pour haranguer les collègues pour défendre un petit noir qui était dans la classe. Et je ne sais plus ce qu'on lui avait fait, des ennuis. Enfin, bon. Et j'ai toujours été un peu comme ça. Et du coup, d'un seul coup, l'âne a symbolisé l'être opprimé.
Ah oui.
Il représente bien l'être. Alors, pas l'humain, mais c'est pareil, les animaux, c'est pareil. L'être opprimé sur la terre, qu'on va toujours charger des pires mots, maltraiter. Et tout à coup, j'ai eu envie, donc, pourquoi pas, d'avoir un âne, parce que ces grosses peluches, là, c'est touchant. Mais je ne connaissais pas trop, en plus. Donc, j'ai commencé par m'en faire prêter un. On m'en prêtait un, Monsieur Garineau du Le Grand Puy, me prêtait un âne, et puis, petit à petit, comme ça. Et puis, un jour, il y a un SDF qui est passé à Digne, et je ne sais plus pourquoi je lui ai parlé, comment c'est venu. Et ce gars-là, il avait un âne, donc, c'était un SDF qui marchait avec son âne. Puis donc, j'ai échangé, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas échanger avec lui, comme j'aurais pu échanger avec quelqu'un d'autre. Et puis un jour, ce gars-là, je le vois se ramener chez moi, à pied avec son âne. Non, je crois qu'entre-temps, il avait deux ânes. Et puis je lui offre un coup à boire, parce que bon, il aimait bien la bibine, il faut reconnaître. C'était un SDF quand même. Et bah, c'était un brave gars, quoi. Hein. Comme tous les gens qui ont des ânes, d'ailleurs. Ils se reconnaîtront. Et il m'a dit, tout à coup, mais tu sais... Si tu as envie d'avoir un âne, n'attends pas trop, parce que les années te prennent, puis un jour, ben, ça sera trop tard. Parce qu'il faut bien dire aux gens qu'un âne, ça peut vivre 40 ans.
Ah oui.
Et que si on est trop vieux, après, ben, il va durer... Enfin, je veux dire, il ne faut pas trop attendre. Quoi.
D'accord.
Voilà, et donc, ça m'a fait tilt. Voilà, et à partir de là, ça a été une nouvelle aventure, une nouvelle ouverture qui s'est faite. La vie, c'est formidable, parce que tout est vraiment une aventure, quoi. Les choses s'enchaînent comme ça, et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui... tout à l'heure, vous avez dit que je suis une femme passionnée. Je ne sais pas si j'aime tellement ce mot de passion. Je me méfie beaucoup de la passion. Mm-hmm. Je suis une grande enthousiaste.
Voilà, c'est très
parce
différent.
Parce que la passion, c'est quelque chose qui brûle, et c'est quelque chose qui est souvent unique. Or, moi, je ne peux pas avoir une passion unique. C'est impossible. Je ne peux pas être fidèle à un seul truc. C'est impossible. J'aime trop la vie. Je l'aime trop pour la manger par différents plats, quoi. Hein. Je ne peux pas me contenter d'un truc. Je ne suis pas la femme d'une passion unique. C'est impossible.
Flora Berger, je vous sens toute partie plein d'enthousiasme. Voilà. Et j'ai envie qu'on fasse une petite pause musicale avec Queen que vous nous avez
portée. J'adore
porté.
Queen, vraiment. Allez. C'est une voix extraordinaire. C'était une voix extraordinaire, mais il est immortel.
On l'écoute tout de suite.
It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by. Smoking chimney tops, am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing, there's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa.
Thank you.
it's all so beautiful, like a landscape painting in the sky. Yeah, mountains are zooming higher, little dogs scream and cry. It's unbelievable. Sends me reeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Ooh, it's bliss.
Magnifique, oh là Queen.
Là, là. Oh, bon, là, je m'envole, là, c'est extraordinaire.
Flora Berger avec nous jusqu'à la fin de cette émission, passionnément vôtre. Vous êtes donc écrivain, conteuse, chanteuse, voyageuse, une femme avec de multiples talents. Et on en était venu donc à parler des ânes. Puisque ça a été pour vous aussi
un tournant
qui vous a amené aussi vers je me souviens, vous êtes allé aussi dans des écoles avec rencontrer des enfants à travers les petits chemins à dos d'âne, enfin
ça a été le premier livre avec âne, on va dire, puisque ouais. C'est le troisième qui sort là de récits de marche avec âne, finalement, mais le premier qui s'appelait Tous derrière et lui devant. C'était le récit d'un petit périple, mais tellement sympathique, tellement plein de rencontres, depuis près de Digne, là, bon, le nom m'échappe, peu importe, par la voie romaine, là, en fait, hein, jusqu'à Colmar-les-Alpes, à travers la montagne. Et les écoles venaient à ma rencontre. Et je racontais des histoires d'ânes aux petits-enfants.
Ah, c'est les écoles qui venaient.
Oui, c'est les écoles qui sont venues à ma rencontre pendant le trajet. Et j'ai dormi dans certaines écoles, d'ailleurs. D'ailleurs, il y a une nuit où on a failli me voler mon âne, la nuit.
Ah oui.
Ah ouais, et c'est très extraordinaire parce que je me suis réveillée brutalement. Je dormais par terre dans la salle de classe, hein, j'étais toute seule. Et brutalement, je me suis réveillée et je suis allée vers la fenêtre. Je sentais qu'il y avait... Je sais pas. Et à ce moment-là, il y avait un gars qui partait avec mon âne. Ah oui, oui. Et il n'était pas méchant, c'est un gars un peu simplé. Il m'a dit, oh, mais je vais le promener. Mais je me suis réveillée, c'est ça qui est... C'est étonnant, hein, quand même. Mm-hmm. Ouais. Et c'était pas le mien, c'était l'âne Gaspard du Grand Puy, qui, le pauvre, après, est mort parce que des imbéciles l'ont loué et l'ont fait tomber dans un ravin. Mm-hmm. Ah oui, oui. Je me souviens que quand j'allais sur le marché à Digne, tout le monde m'en parlait. Et j'avais les larmes aux yeux, et les gens aussi, et les gens me disaient... Parce qu'on a eu tellement d'articles dans la presse, des fois on a eu une page entière dans la Provence, dans le Provençal, hein, avec cette âne, parce que c'était magique, quoi. Hein, c'était... Et voilà, et donc il y a eu l'âne Gaspard, et puis après j'ai eu mon propre âne, comme je le racontais tout à l'heure. Mmh. Et à ce moment-là, chaque année, je suis partie quelques jours... plus ou moins longtemps, marcher avec mon âne, Pistou. Puis après, comme il s'ennuyait tout seul, j'ai eu Praline, une petite femelle. Voilà, et les années ont passé, et vraiment chaque année. Et au pire, je n'ai marché que 5 jours. Mais bon, voilà, au pire. Mais 5 jours, on se fait déjà des bons souvenirs. Hein.
Ouais.
Il se passe des choses, hein, parce qu'un âne, c'est magique, quoi. C'est pas comme de marcher tout seul, ça n'a rien à voir, quoi.
Les animaux tiennent une place importante dans votre vie aussi.
Oui, c'est vrai.
Parce que vous avez écrit, je vois le loup des monges, la louve du Queyras.
Voilà.
Alors,
ça, c'est comme ça, je peux embrayer sur,
oui.
sur ma collection jeunesse. Donc, il y a de ça combien ? Une douzaine d'années, me semble-t-il. Je me suis dit quand même, tu as beaucoup de choses pour les adultes, y compris des contes. Qui ne sont pas forcément tout à fait pour les enfants. Parce que, par exemple, j'ai écrit « Contes et nouvelles de la ruche ». On m'a dit qu'il y a des enfants qui l'aimaient beaucoup. Hein, mais c'est quand même très écrit, c'est très littéraire, c'est très poétique. C'est pas pour les tout-petits, en tous les cas. Donc je me suis dit, ben, dans le fond, ce serait bien si je pouvais avoir une collection vraiment à l'adresse des enfants. Mais pas de conte, de roman, avec une héroïne qui reviendrait tout le temps, quoi. Et c'est comme ça que j'ai démarré avec Le Loup des Manges. Pourquoi le loup ? Parce qu'il y avait ce problème qui existe toujours, qui s'est bien durci d'ailleurs, du retour du loup dans nos massifs avec tous les problèmes que ça pose aux bergers. Que le loup, c'est une bête qui est protégée et qui est admirable en bien des points et dangereuse en bien d'autres points où il ressemble à l'homme d'ailleurs. L'homme dont il a toujours été l'ennemi parce qu'ils sont en concurrence directe, disons les choses telles qu'elles sont, hein, c'est vrai. Mmh. Et moi, j'ai un cœur tout particulier pour les bergers. Forcément, mon nom Flora Berger, c'est un nom d'artiste. Hein. J'ai pas choisi au hasard Berger. Hein. Donc, comment faire avec tout ça, quoi, hein. Et donc, j'ai voulu parler de ce sujet aux enfants à travers un roman qui est quand même pour les enfants. C'est quand même les 8-12 ans, hein, donc c'est pas les tout-petits quand même. J'aime beaucoup cet âge-là. Là. Je trouve que c'est un âge très intéressant. J'ai voulu en parler à travers un roman et d'une façon intelligente. C'est-à-dire, moi, je ne conçois pas, comme la plupart des gens me demandent, « Alors, vous êtes pour qui ? Pour les bergers ou pour les loups ?» Et je réponds, mais si j'ai écrit ces livres-là, c'est justement pour ne pas répondre à ce genre de questions. Et en tous les cas, pas répondre par l'un ou par l'autre. Mais il faut un petit peu voir plus loin que le bout de son nez. Et que les bergers ne voient pas plus loin que... Ça, je le comprends. Ils sont en plein dans le truc. Mais nous autres qui sommes à l'extérieur, nous n'avons pas à dire « je suis pour l'un ou pour l'autre et contre l'un ou contre l'autre ». C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En tous les cas, on peut pas trouver de solution si on raisonne comme ça. Mmh. Voilà. Et du coup, c'est parti là-dessus. Donc, Le Loup des Manges est sorti. La petite héroïne qui s'appelle Julie, donc son oncle est berger dans les Clus de Barle. Donc, voilà. Hein. Mmh. Et puis après, du coup, cette collection est née. L'éditeur que j'avais, enfin que j'ai toujours, m'a dit « Mais fais-en un autre, si tu veux, mais change de massif. » Donc, je suis allée dans le Queyras. Puis après, pour le dernier là en date, là, c'est le cinquième donc, de la série, j'ai voulu clore cette histoire de thème du loup, parce que je me suis dit « Bon, ça va, tu fais 3 bouquins là-dessus, puis les autres, tu changes un peu de, hein, de crèmerie. » Et donc, le dernier, c'est le Chant des loups, c'est le dernier paru, donc... Hein. Où j'ai un petit peu apporté, on va dire, une sorte de conclusion, quoi, sur le thème.
Alors, je vois qu'il y a aussi Contes et Nouvelles de la Ruche, dont vous en parliez à l'instant, avec un conte enregistré sur CD, c'est sympa aussi.
Oui, mais ça, je l'ai fait, voilà, c'est toujours pareil, ça, je l'ai fait moi-même, d'ailleurs, il est de très bonne qualité, mais... Je veux dire, il n'est pas en vente nulle part. Hein.
Ah oui.
Mais oui, parce que quand le livre a été épuisé, comme je l'ai fait avec Goncet, qui est parti, je ne sais pas où, là, on ne s'est plus vu, je me suis dit, tiens, dans le fond, puisque je suis conteuse, et si je l'enregistrais ? Voilà. Et j'ai quelqu'un qui m'a permis de faire un enregistrement très propre, où j'ai fait, entre chaque conte, une improvisation sur des flûtes. J'ai une collection de flûtes du monde entier.
Ah oui ?
Ouais. Que j'ai dans des cartons, parce que du coup, ça ne me sert plus à rien, mais bon, je l'ai, quoi. Hein.
Et qui fonctionne de toutes ?
Pas toutes, mais non. Une grande partie. Ouais. Donc j'ai fait des petites impros comme ça. C'est sympa, quoi. C'est un joli disque, mais on peut me le commander, quoi. Mais bon, sinon, on le trouve nulle part. Hein. Et du coup, l'année dernière, j'ai quand même réédité le petit bouquin. Donc j'en ai. J'en ai par écrit.
Voilà. D'accord.
Parce que c'est vraiment un des plus jolis livres que j'ai écrit, je trouve. Au niveau de l'écriture, je me suis vraiment... éclaté, j'ai retrouvé la poète de ma jeunesse là.
Alors c'est le titre ?
Contes et nouvelles de la ruche, c'est celui-là.
D'accord.
Mmh. Ouais, l'écriture est vraiment très 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 poétique.
Et puis alors il y a des livres pour la jeunesse, des livres pour adultes, des livres pour les uns et les autres. Mmh. Contes des animaux fabuleux et symboliques.
Alors, ah
ça,
oui.
C'est aussi.
Alors ça c'est parce que à un moment donné le musée. Le musée, comment on l'appelle le musée de sciences naturelles, quelque chose comme ça, je suis pas trop exacte là, qui est à Marseille, chercher une conteuse qui veuille bien conter sur des animaux fabuleux. Et
qu'est-ce qu'on appelle les animaux fabuleux ?
Eh bien voilà, mais c'est pas évident, et moi j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'un conte qui m'emballait pas tellement. Et bon, enfin, je me suis débrouillée, j'y suis allée. Et il se trouvait, ou est-ce que c'était après ? Mon Dieu, je sais plus. Il se trouvait qu'à un moment donné, c'était avant, je crois. Je me rappelle plus. Je mélange un peu les pinceaux. j'ai travaillé un petit peu avec le groupe de handicapés dont on s'occupe à Digne-les-Bains. Ils viennent pas loin d'ici, là, d'ailleurs, pas loin de la radio. C'est le groupe dont s'occupait Madame Grangier, qui était la présidente.
C'est pas Chemin d'Espoir ?
Chemin d'Espoir, voilà. Oui. Le nom m'échappait, hein, ouais. En vieillissant. Hein, j'ai un peu du mal à trouver les trucs.
C'est pas grave.
C'est Chemin d'Espoir, voilà. Ouais. J'ai travaillé un petit peu avec Chemin d'Espoir et je leur avais fait écrire un conte et, sur un animal fabuleux. Et du coup, j'ai raconté ça à Marseille. Voilà, donc il fallait que j'aie deux contes longs. Hein, c'était des contes qui faisaient 20 minutes quand même. Hein, mm-hmm. Donc ça faisait 40 minutes, c'était parfait. Et puis après, j'ai trouvé que c'était intéressant quand même comme sujet et qu'il n'y avait pas beaucoup de contes sur des animaux fabuleux, mais pas localisés d'un terroir. Parce que sur des terroirs, il y en a beaucoup, comme par exemple la tarasque, qui est de chez nous, qui est provençale. Mais je me suis aperçue que par contre, des animaux fabuleux comme, qu'est-ce qui va me venir à l'esprit ? Le dragon, par exemple. Voilà, mm-hmm. C'est le plus connu, hein. Le dragon, voilà, celui-là, on le trouve de partout. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et par exemple, par contre, le dragon, chez nous, il est plutôt négatif, en Chine, il est positif. C'est intéressant de voir comment ces bestioles-là sont vues dans différents continents. Parce que ceux qui sont pas typés d'un terroir, par contre, on les retrouve dans le monde entier. C'est ça qui est intéressant, parce qu'ils ont une valeur, une force symbolique. Et d'ailleurs, on les retrouve dans le dictionnaire des symboles, par exemple. Et j'ai rencontré un vieux monsieur de Marseille sur un salon du livre qui faisait des dessins à la plume. Des dessins extraordinaires à la plume, ça doit lui demander un temps. C'est un travail extraordinaire. À l'encre de Chine, là, Paul Bergas. Et je l'ai branché et je lui ai dit « Paul, c'est formidable ce que vous faites. Si on faisait un livre ensemble, vous faites les dessins et moi je fais les contes. » Il a été d'accord. Et donc il m'a fait des dessins spécialement pour des contes que j'ai écrits. Et puis,
que l'on trouve dans ce livre « Contes des animaux fabuleux,
voilà,
et symboliques ».
Et moi j'ai pris aussi certains de ces dessins pour illustrer certains des contes que j'avais écrits. Alors là, c'est des contes que j'ai écrits moi-même. Mm-hmm. Mais il a fallu que je trouve... 7 animaux fabuleux, symboliques, qu'on trouve à travers le monde entier. Et j'ai eu du mal. Et puis, finalement, j'en ai trouvé 8. Donc, comme je voulais que ce soit le chiffre 7, qui est un chiffre hautement symbolique,
ouais,
j'en ai mis 2 dans le même conte, parce que ce sont 2 animaux qui symbolisent le feu, qui sont le phénix et la salamandre. Donc, il y a 7 contes, comme je le voulais, mais 8 animaux. Fabuleux, symbolique. Je l'aime beaucoup, ce livre. Il est tout à fait particulier. Et j'ai énormément de mal à le vendre.
Ah oui.
Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Tout le monde le regarde. Mmh. Tout le monde me dit « Ah, oh, c'est beau, da, da, da. » Et les gens ne l'achètent pas.
Alors, est-ce qu'il est... Pourtant, il est
Parce
pas
que
cher.
C'est pointu, peut-être.
Ouais.
Alors, il était dans une édition un peu luxueuse. Mmh. Il valait un peu plus cher. Il valait 23 euros. Et il y avait un papier un peu chic.
Eh oui.
Un papier un peu parcheminé. Et je l'ai fait rééditer quand même, parce qu'on m'en avait tiré très peu. Et j'ai dit à mon éditeur, écoute, fais-le dans une facture plus modeste, tant pis, mm-hmm. pour qu'ils se vendent mieux. Et ils ne se vendent pas mieux.
Ah oui.
C'est dommage, hein, je ne sais pas pourquoi, mais mm-hmm. peut-être les gens se disent, bah... Alors par contre, vous avez des gens qui vont plouf, venir direct là-dessus, et ils vont dire, je veux ça. Mm-hmm. C'est un petit peu pointu. Mais en fait, ce n'est pas si pointu que ça. Si les gens savaient, ce n'est pas si pointu que ça. Parce que ce sont des contes. Vraiment des contes où je me suis éclatée, où j'ai vraiment... Oh, j'ai laissé mon esprit s'envoler de partout. Et à la fin de chaque conte, j'explique le symbolisme de cet animal. Ce qui fait qu'on peut relire le conte avec un éclairage beaucoup plus fort, quoi.
Alors les contes, ça fait des années que vous comptez. Il y a eu au départ des contes que vous appreniez, que vous avez récupérés.
Oui, bien sûr.
Comment on fait la recherche, comment on puise les contes ? Est-ce qu'on va chercher à l'étranger, les contes africains par exemple ou
Alors C'est une excellente question, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont eu la chance que leurs parents leur racontent des histoires quand ils étaient petits, etc. Bon, moi, pas du tout. En fait, j'ai découvert le conte sur le tard, et je me suis rendu compte, je n'ai pas fait exprès, que le conte était un monde d'une richesse telle qu'il satisfaisait toutes mes attentes intellectuelles, émotionnelles, poétiques. Il répondait à beaucoup de mes attentes, de ma soif de comprendre, d'apprendre, de rêver, de tout, quoi. Et donc, je me suis lancée dans cet univers. Et comme je suis très branchée montagne, je suis quand même un peu allée dans cette direction. Du coup, il y a des sortes de contes que je raconte jamais. Tous les grands contes traditionnels, je ne les raconte pas. Je ne les ai jamais racontés. Moi, je me suis fait mon monde à moi, mais c'est normal, chaque conteur fonctionne comme ça. Et du coup, il m'est arrivé même d'adapter des nouvelles écrites par des gens, des montagnards qui ont fait des nouvelles, et de les adapter, par exemple. Il y en a une que je gardais très longtemps comme ça. Il m'est arrivé de conter des choses que j'ai écrites moi-même, mais très peu, curieusement. Et puis après, j'ai une bibliothèque énorme de contes, et il faut en lire beaucoup, pour que soudain, il y en ait un qui, paf, vous fasse tilt. Et des fois, il arrive aussi, par exemple, qu'on ait envie de raconter une histoire. Ça, c'est très, très intéressant. Il y en a une comme ça, par exemple. Ça s'appelle Henri Gougaud, qui l'a raconté par écrit, donc. Hein. Henri Gougaud, qui est un de mes maîtres, pour ne pas dire mon maître. En plus, il est écrivain aussi. Et Henri Gougaud a raconté Le langage obscur. C'est lui qui lui a donné ce nom, d'ailleurs. Hein. Je crois bien qu'il a fait un mix de deux contes. Et du coup, j'adore ce qu'il a fait. Et quand je l'ai lu, j'ai été complètement frappée au cœur et j'ai eu envie de le raconter. Eh bien, j'ai été obligée d'attendre des années pour pouvoir le raconter. Parce que, je ne sais pas, j'étais pas prête. J'avais pas la maturité qui correspondait à ce conte précisément. Et le jour où je me suis sentie prête, mûre pour lui, eh bien, lui, il était mûr pour moi et on a fait ami-ami. Et c'est devenu un de mes contes préférés, quoi. Mais c'est... Voilà, il y a des choses, parfois, on n'est pas prêt ou... Je sais pas. C'est vraiment... choisir un conte, c'est vraiment une rencontre. C'est une rencontre et une rencontre. Mmh. Et voilà, il faut que ça se fasse.
Parce qu'il y a beaucoup de symboles, justement, de symbolisme dans chaque
conte.
Alors, quand vous avez choisi un conte, j'imagine que chaque conteur le conte à sa façon et que est-ce que vous êtes tenté d'aller insister sur une partie de l'histoire ou d'aller un petit peu ailleurs? Est-ce qu'on on a envie d'ouvrir le conte, d'en faire un peu à sa sauce quelque chose?
Oui, ça dépend des contes parce que il y a des contes qu'il faut pas trop, desquels il ne faut pas trop s'éloigner. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut respecter le conte dans ce qu'il vise et dans la profondeur de ce qu'il dit, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai, par exemple, pour illustrer ça, je pourrais dire que ce qui est tout à fait merveilleux, c'est de se rendre compte que parfois, certains contes, le même et pas le même, se trouvent en Afrique et en Inde, par exemple. Où est-ce qu'il est né? Est-ce qu'il est né en Afrique? Est-ce qu'il est né en Inde? Est-ce qu'il est né aux deux endroits et il se trouve que par un hasard extraordinaire, deux personnes ont eu le même cheminement? C'est le même, comment dire, le même cheminement, mais par exemple avec des animaux différents, dans une culture différente. Mais c'est le même quand... Et parfois, quand j'allais à un stage de conte, par exemple... Tout à coup, on était deux conteurs, parce que souvent, il faut arriver avec un conte qu'on va travailler. On était deux à avoir le même conte dans des contes très différentes. Et là, la confrontation ou le rapprochement était vraiment très intéressant. Le conte, c'est vraiment un personnage à part entière. Il faut le respecter. Mais, alors, par exemple, il y a le choix des mots. Il y a les images qu'on va se faire à soi-même et qui ne vont pas être les mêmes tout à fait que celles du voisin. Et puis, il y a notre personnalité. Et ce qu'il y a de bien dans le conte, c'est que le conteur est au service du conte et en même temps, et c'est ça qui est très particulier dans le travail de conteur, et il est au service du conte, mais le conteur doit être en même temps extrêmement lui-même. Il ne peut pas mentir. Il est complètement lui-même. Alors comment peut-on être le serviteur et être en même temps soi-même ? Et c'est ça qui est complètement particulier dans ce métier. Et intéressant.
Je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. Et ensuite, on va venir, évidemment, le conte et la musique, puisque ça fait partie aussi de votre façon de conter. Vous avez intégré la flûte, la guitare. On voit ça.
C'est plus la guitare, d'ailleurs, mais on va voir ça.
Ouais, on va voir ça dans un instant.
Mariposa, poder voar e andar sozinha. Buscaria entre as flores mais mimosas para beber o aroma cor d'armiño, de perfume d'alvusa. Poder voar e então sozinha. Buscaria entre as flores mais mimosas para beber e o aroma cor d'armiño.
Vous êtes sur Fréquence Mistral dans l'émission Passionnément Vôtre. Nous sommes en compagnie de Flora Berger qui écrit, conte, chante, marche. On vient d'entendre dans cette chanson le mot Compostelle, donc on pense inévitablement à ce dernier livre que vous venez de sortir, de faire paraître, d'éditer, Le chemin de Compostelle.
C'est un des... un des chemins de Compostelle, parce qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Compostelle. Et donc, ce livre relate une marche de 1540 km, en quatre fois quand même. Hein. Mais ça parle surtout donc de ce chemin qui part du Mont-Genèvre et qui rejoint Arles, et qui est donc le chemin qui nous concerne sur le 04-05. Donc. Et puis après, ça continue, mais on en reparlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure. Voilà. On va revenir au conte et à la musique, puisque vous vous accompagnez à la guitare, à la flûte. On a vu donc que vous aviez des collections de flûtes du monde entier. Et ouais. La musique, c'est, ça a une place importante aussi dans votre vie, puisque vous chantez aussi. Vous avez chanté Barbara, entre autres, et plein d'autres. Une plume, Flora Berger, mais aussi une voix.
Voilà. Finalement, la chanson, c'est aussi le verbe, hein, ouais. Puisque je dis que je suis une amoureuse des mots. Mmh. Je ne chante que des chansons à texte, hein, c'est clair, ça. Parce que vraiment, il y a beaucoup de chansons qui ont des textes qui sont de vraies poésies. Hein. Il y a vraiment de très belles chansons. Puis il y a la musique aussi. Et la musique, c'est vraiment le langage du cœur. C'est un langage qui parle à tout le monde. Et ça me prend le cœur comme à moi, comme à la plupart des gens, hein, bien sûr.
Vous avez étudié de la flûte traversière ?
Oui, j'ai fait pas mal d'années de flûte traversière. Mais j'étais très traqueuse, hein, par contre, pour utiliser ça après dans des spectacles. Mais j'ai fini par le faire. Je suis arrivée à le faire, mais c'était à chaque fois vraiment une grande crainte pour moi, quoi. Je l'utilise encore un peu. Bien que ce soit quand même un instrument plus quand même classique, un instrument de concert, je fais du trad avec. Hein, je joue des petites choses trad sur ma flûte traversière, mais ça se fait de plus en plus. Hein. Mm-hmm. De même que maintenant, dans un orchestre un peu de jazz, on met un petit peu de flûte. Voilà, c'est souvent pas l'instrument dominant, mais elle peut faire plein de choses, la flûte quand même. Hein.
Donc vous avez fait de la musique traditionnelle pendant quelques années avec Patrice Gabbé.
Alors oui, j'ai joué de la flûte dans son orchestre du conservatoire, d'élèves hein, du conservatoire, hein, entendons-nous bien, on n'est pas au niveau de Patrice Gabbé, loin s'en faut, mais ça m'a beaucoup apporté, et ça m'a surtout apporté, c'était du traditionnel mais des Balkans avec lui, hein. ça m'a apporté de jouer à l'oreille, c'est-à-dire sans avoir une partition devant soi, hein. Ce qui est très... ça fait peur, hein, mais mm-hmm. Après, on est bien libérés. Et puis, j'aimais bien improviser aussi. J'étais bien... À ce niveau-là, j'étais bien à l'aise, quoi, hein, finalement. Voilà, et puis... j'utilise... Depuis peu, j'ai découvert un instrument. Je pensais faire un petit fond d'accompagnement quand je compte avec cet instrument, puisque je l'ai découvert grâce à un compteur... c'est le conteur qui tient la baleine qui divague à Marseille, le théâtre de conte, la baleine qui divague.
Alors je me languis de savoir quel est cet instrument.
Voilà. Et oui,
vous savez mettre le suspense.
Lui, il comptait en jouant de ça et je lui ai dit, ça t'embêterait si je te copiais dessus et si j'essayais d'acquérir cet instrument. Il m'a dit non, pas du tout. De toute façon, on n'est pas au même endroit et donc. Finalement, j'en trouvais pas de ces instruments parce qu'il est pas connu. Ah, mais on y viendra, on y viendra. Et finalement, j'ai cherché sur Internet. J'en ai trouvé un que j'ai reçu par la poste. Et quand je l'ai reçu, j'étais incapable de savoir mettre les cordes parce que les cordes n'étaient pas mises dessus. Alors, j'ai cherché sur Internet comment mettre les cordes sur un dulcimer.
Dulcimer, voilà. Ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas du tout à quoi ça ressemble.
Alors, j'ai vu sur Internet. Ouais. Donc, ça m'a permis de mettre les cordes. Et puis après, je me suis dit, mais comment on en joue de ce truc-là ? Parce que très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie, finalement, de faire quelques notes en comptant, mais qu'en fait, mon passé de guitare, qui était bien loin en arrière, j'ai toujours regretté de ne pas avoir continué la guitare. C'est vraiment dommage, parce que j'adorais chanter en m'accompagnant. Je l'ai eu fait, mais bon, j'étais très limitée en accords. Je faisais quand même un petit peu, je tournais toujours autour des mêmes accords, quoi. Mais bon, ça fait rien, je l'ai fait quand même. Hein. Et puis là, je me suis aperçue que finalement, on pouvait se servir de cet instrument pour chanter avec.
Alors, le dulcimer.
Dulcimer, ça vient du vieux français.
Ça ressemble à quoi ?
Ça vient du vieux français douce mélodie.
Oui.
Et c'est un instrument, pas du tout provençal, mais qui vient en fait vers le Texas, là, vers le sud de l'Amérique du Nord. Et donc je suis allée sur Internet, j'ai entendu effectivement comment les gens s'en servent. Mais bon, moi après je m'en sers à ma façon et puis puis voilà. Hein.
Alors, est-ce que c'est aussi gros qu'une guitare? C'est plus gros?
Alors, en fait, c'est un instrument qui fait partie des... ça fait partie des... Ah, ça me vient pas. Un instrument
alors,
ancien.
Ça y est, j'ai trouvé. Alors, je...
Ah, bravo.
Ça m'est pas venu tout seul, hein. Je ouais. triche. De la famille des sitars.
Oui.
Voilà.
Et comment ça va si vite?
Je
suis internet.
Oui, hein. Eh oui, ah. bien sûr.
Oh là là, moi je suis incapable d'aller aussi vite. Hein. Bravo. Hein. Tu vas me donner des leçons, là, j'ai vraiment besoin. Hein. Voilà, c'est de la famille des sitars, en fait. Mm-hmm. Et d'ailleurs, ça a une forme. Alors, celle-là, on l'appelle le sablier, parce que ça a forme d'un sablier un petit peu allongé. Et on le tient pas comme une guitare, on le pose sur ses genoux, mm-hmm. sur ses jambes, là, et on joue à plat. Et c'est plus facile que la guitare, parce que c'est...
Combien de cordes ?
Il y a que... Alors, il y a une corde qui est double. En fait, il y a ré, la ré, hein, c'est tout bête. Hein. Mm-hmm. Il n'y a que trois cordes, hein, dont une qui est double, mais ça fait quatre, mais en fait, ça fait que trois, quoi. Hein. Et on... Eh ben, en trafiquant, on arrive quand même à faire des accords avec trois notes différentes, quand même. Hein, voilà. Après, ça fait des accords beaucoup moins riches qu'à la guitare, et on a moins de possibilités. Mais c'est plus facile. C'est plus facile. Et puis alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est original.
Et voilà.
Donc, comme moi, j'écris des chansons, hein, un petit peu, avec cet instrument-là. Mais comme je ne le fais pas beaucoup...
Ah, bon. vous composez
quand
même.
Ah oui, mais je compose. Ah ben, je peux pas faire autrement, moi.
Eh ben oui.
Ah, ouais, alors, des j'ai chansons, composé en provençal, même. En fait, j'ai les
vous
premières...
Vous parlez de provençal
Eh ben, j'ai suivi des cours, je me suis mise au provençal, parce que comme avec cette dame, on avait fait un duo trad de musique provençale mm-hmm. et occitane, je me suis dit, moi... Puis j'étais rentrée aussi dans une petite chorale de trad, comme ça, qui existe toujours, qui s'appelle Boulegadis. Donc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu chantes du trad, du provençal, tu peux pas continuer sans connaître la langue. C'était pas possible, ça. Je respecte trop les langues.
Eh oui.
Mmh. Il fallait que j'en sache plus. Il fallait que je sache mieux. Donc, j'ai suivi des cours. Et puis je continue un petit peu, là, de loin en loin. Mais bon, je fais trop de choses, alors j'arrive pas à tout mener de front, ça, je reconnais. Hein. Donc, j'ai pu écrire, sauf que je me fais corriger, parce que... Voilà. Donc, par ma prof particulière, je me suis fait corriger... cette chanson, quoi. Mm-hmm. J'en ai écrit deux ou trois, là, en provençal. Ouais.
Donc, des chansons provençales, des chansons en français aussi.
Ouais, oui.
Alors, il y a un répertoire, il y a
oh,
de quoi...
Oh, il n'est pas gros, non.
Il n'y a pas de quoi faire un CD.
Non, je crois pas. Non. Oh, si, je pourrais toujours faire un CD de quatre titres. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas combien j'ai de titres. Mm-hmm. J'en sais trop rien, parce que je fais aussi des reprises, par exemple. La chanson du petit âne gris d'Hugo Frey. Mm-hmm. Je ne l'ai toujours pas envoyée, mais ça, vraiment, je devrais le faire. Je devrais me dépêcher, d'ailleurs. Parce qu'il vieillit, quand même. Mais il y a très longtemps que j'ai écrit. Je lui ai écrit une suite.
Ah oui?
Donc, en français. Une suite, parce que je pleurais à chaque fois à la fin.
Et alors, une suite
et la
qui
suite,
finit bien.
C'est quand il est au paradis. Et elle est très écolo.
Ah ouais.
Et ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai écrit ça quand j'avais 20 ans. J'en ai maintenant 60, donc il y a 40 ans. Et ça parle déjà d'écologie. Donc, ce qui veut dire que le problème, il est là depuis très longtemps. C'est, mm-hmm. c'est très frappant. Quand je chante ça, les gens sont contents de cette fin, de cette chanson. Vraiment, ça a beaucoup de succès. Et quand je leur dis que je l'ai écrit il y a 40 ans... Ah là 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 là. Comme quoi le problème était déjà là, quoi.
Alors, puisqu'on parle de Hugo Frey,
eh ben oui,
on va
j'ai
faire
pas fait
le
exprès.
Lien, voilà, puisque vous nous avez apporté un CD avec Hugo Frey et on va écouter donc une chanson. Knock knock, ouvre-moi,
voilà.
Ouvre-toi.
Je peux en dire un mot quand
bien
même,
sûr.
Parce que voilà, ce disque, je savais pas qu'il existait. Un jour, je suis rentrée à la Fnac avec Aix-en-Provence. Et j'ai regardé les disques qui sont un petit peu pas chers, là, qui sont en offre, là. Et je vois Hugo Frey. Or, j'aime bien Hugo Frey, c'est vraiment un personnage vraiment chouette. Et je vois chante Bob Dylan. C'est toute mon époque, ça, Bob Dylan.
Oui.
Oh, je dis sans blague, je retourne en français. Et en plus, il y a des duos. Et Knock Knock, sur ce disque, c'est un duo avec Calogero.
Là, c'est écrit avec Bernard Lavilliers.
Ah oui, avec Bernard Lavilliers.
Est-ce,
oui,
est-ce que je me trompe de titre?
Non, c'est moi qui me trompe.
On écoute celle-ci toujours?
Oui, tout à fait. D'accord. Avec Bernard Lavilliers, que j'aime beaucoup aussi, qui est un grand voyageur et un personnage passionnant.
Maman, j'étais pas loin de ma vue. Dans tous ces mensonges, je n'en veux plus. Cet ange noir déplie ses ailes. Et dans la nuit, j'appelle aux portes du ciel. Nat, nat, ouvre-toi, porte d'or. Ouvre-toi, porte d'or. Knock, knock, ouvre-toi, porte d'or. Knock, knock, ouvre-toi, porte d'or.
Maman, je t'en prie, enterre mon fusil. Non, je ne veux plus tuer la vie. Grand nuage déverse son fiel. Là devant moi se dressent les portes du ciel.
Knock, knock, ouvre-toi, porte d'or. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, ouvre-toi, porte d'or. Pour ce pardon, combien de larmes de corps.
Il est bien tard, mais j'y crois encore. Et j'implore ce soir aux portes du ciel.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Ces zones, ce désert.
Et combien de ruines sur notre terre.
Oui, c'est l'horreur, je pleure et j'appelle.
Et je cogne ce soir aux portes du ciel.
Knock, knock, knocking on heaven's door.
Enterre nos fusils.
Voilà, Hugo Frey chante Dylan.
Super, ce disque.
Bel album. Hugo Frey, New Yorker.
Pas connu.
Et non,
pas connu du tout,
non.
Ce disque.
Et c'est très sympa d'entendre du Dylan en français.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui. Et c'est bien traduit. Il est tout à fait respectueux de... du sens des paroles, il reste assez proche des paroles de Bob Dylan.
Alors Flora Berger chante et a chanté quelques années, beaucoup de reprises.
Oui, je me suis fait plusieurs répertoires. J'ai beaucoup chanté dans les maisons de retraite. D'abord, c'est merveilleux pour les papis, les mamies, ils sont tellement heureux. Oh, mais alors du coup, j'ai été piochée dans des choses très anciennes. Et puis, dans des choses qui sont mon époque, alors évidemment pour les jeunes de maintenant, mon époque c'est déjà ancien, mais alors que dire de celle des mamies. Et finalement, j'ai découvert des tas de chansons. Alors par exemple, je me suis découvert une admiration vraiment immense pour Charles Trenet, par exemple.
Ah oui,
oh,
de belles chansons.
Quel type extraordinaire. Il a amené le swing dans la chanson française, il a amené la révolution dans la chanson française. Donc il est toujours d'actualité, hein, je veux dire... Et j'ai développé comme ça des, alors les années 60, les années 70, les années 80, plusieurs répertoires. Mais j'ai surtout commencé accompagné d'un guitariste qui est Henry Benz. Allez, je vais dire son nom.
Mais c'est une, ça fait un duo pendant quelques temps quand même Henry Benz.
Ah oui, c'était formidable. Ah vraiment, avec Henry, je me régalais. Mais maintenant, il a monté son propre orchestre, je crois. Hein.
Oui,
j'ai pas encore eu le plaisir de l'entendre, mais il a arrêté parce que c'est, on a eu beaucoup de galères hein, des fois. Oui, les conditions dans lesquelles on se produit, c'est souvent. Et la dernière galère qu'on a eue, ben, je crois que ça l'a, il a arrêté. Mmh. Complètement, ça l'a dégoûté.
Oui, la chanson, c'est pas facile à... Autant les orchestres de musique, d'ambiance, on peut aller dans les bars, dans des fêtes, mais la chanson française.
C'est-à-dire qu'en fait, nous, c'est complètement cabaret. Mmh. Moi, je suis une chanteuse de cabaret, j'adore. Je crois qu'on est bien placés toutes les deux pour en parler. J'aime l'intimité du cabaret, cette chaleur humaine, cette proximité des gens. Et en fait, tout ce répertoire, c'est la belle chanson française, c'est-à-dire les chansons à texte qui ont une belle musique et deux belles paroles. Et des paroles que j'admire énormément, hein. Chansons de Brel, d'Aznavour, de Bécaud.
Aznavour n'est pas tellement mis à l'honneur pourtant.
Oh, quel dommage.
Dommage. Il continue de chanter, il a 90 ans. Hein.
Oui. C'est vrai qu'on n'en parle plus trop en ce moment.
Il a de très belles chansons et je ne sais pas quand est-ce que... On va lui rendre l'hommage qu'il mérite. Bécaud, c'est pareil.
Alors lui, encore moins.
Hein. On ne lui rend pas tellement hommage. Pourtant, il a de très belles chansons et c'était un sacré bonhomme.
Il y a des chansons avec des textes formidables. Et donc, j'ai développé des répertoires avec toutes ces chansons-là. Et moi, je sais que j'ai quand même chanté, je ne sais pas combien de fois j'ai pu chanter, peut-être qu'une trentaine de fois, peut-être pas plus, mais les gens aiment, vraiment. Les gens se sont régalés. Et j'ai une voix, bon, ça va, qui peut descendre assez bas et monter assez haut. Donc, je pouvais quand même prendre pas mal de chanteurs. Il y en a quelques-uns que je ne peux pas. Oui, alors, il faut franchement changer la tonalité.
Jacques Higelin, par exemple, est-ce que c'est un auteur que vous aimez? Non.
Non, c'est pas...
Pourtant, il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de mélodies.
C'est vrai. Mais j'ai jamais chanté Jacques Higelin. Ouais. Je crois que c'était déjà un petit peu plus. J'étais déjà un peu grande. J'étais déjà un petit peu éloignée. Je ne sais pas comment dire. Je pense que souvent, on est fidèle à une certaine période de sa vie. Et jusqu'à un certain âge. Puis après, on se détache. On est trop occupé. On ne fait plus trop attention. Et Higelin, c'était déjà un petit peu après pour moi.
C'était déjà, chantez beaucoup d'auteurs hommes, comme Brel,
beaucoup, c'est vrai.
Higelin, Ferré
c'est
aussi
vrai. Un petit peu de Ferré. Difficile à retenir, à mémoriser, hein. C'est l'horreur. Mais je sais pas si ça me va trop à la voix. Il avait une voix assez aiguë. Moi, je suis une femme avec une voix quand même relativement grave. Je suis mezzo en fait. Hein. Donc les hommes qui ont une voix aiguë, ça m'oblige à aller l'octave au-dessus. Ça me fait très aiguë. Mm-hmm. Donc pas trop quand même. Ferrat. Mm-hmm. Je sais pas, il y en a plein. J'aime beaucoup. Fugain. Voilà. Michel Fugain a écrit des chansons dont on ne s'est pas rendu compte à quel point il y avait de la beauté et de la poésie. Et à quel point il disait des choses très importantes, mais sans avoir l'air d'y toucher comme ça. Fugain, l'époque du Big Bazar, c'était formidable. Hein. Voilà, j'aime bien chanter Fugain aussi. Ouais.
Et en ce qui concerne les femmes, bien sûr, Barbara.
Alors Barbara, voilà, elle me va très bien à la voix. Voilà. Tout le monde me dit toujours, oh, vous chantez comme elle. C'est faux, je chante pas du tout comme elle, mais ça me va tellement bien qu'on s'imagine que je chante comme elle, mais c'est pas vrai. Mmh. Mais ça me va très bien, et puis on est dans la même tonalité, complètement. Donc je suis vraiment à l'aise avec elle. Mmh. Et puis alors les textes, c'est magnifique, hein.
Et Edith Piaf, bien sûr.
Un petit peu Edith Piaf aussi, un petit peu. Alors elle est un peu grave pour moi, il faut que je monte un petit peu la tonalité. Et puis c'est quand même très très ancien, donc j'aime mieux Barbara qui est plus de mon époque.
Ouais.
Encore que finalement tout ça, ça se chevauche un petit peu. Mais Piaf, c'est vraiment... Mais j'en chante quelques-unes, ouais.
Donc bientôt peut-être un retour sur...
De chanteuse
Oui.
Je vais peut-être avoir une opportunité. J'ai rencontré par hasard, tout à fait par hasard, en allant prendre une photo pour mon livre dans les Hautes-Alpes. Mm-hmm. C'est tout à fait drôle, ça, en cherchant une chapelle, pour dire hein, que les hasards de la vie. Je suis tombée sur un monsieur qui a vu que je cherchais quelque chose et qui, du coup, est venu vers moi et qui a monté, qui, outre le fait d'être un historien de son terroir, a monté un festival Georges Brassens dans les Hautes-Alpes, près de l'Argentière-l'ABC, là. Et il serait intéressé pour que je vienne chanter. Pas cette année, c'est déjà bouclé, mais peut-être l'an prochain, qui sait. C'est que du plaisir, hein, je veux dire. Je suis pas obligée, je peux le faire, je peux ne pas le faire. Et c'est ça qui est bien. Quand y a... Vraiment, quand l'artiste est obligé de vivre de son art, c'est un peu contradictoire. Et on souffre beaucoup. On souffre beaucoup parce que d'être obligé de se vendre, d'être obligé de gagner sa vie avec ça, ça détrône un peu le rêve. Et on est malheureusement obligé d'en passer par là. Surtout les petits artistes, c'est-à-dire les gens qui ne passent pas à la télé, qui n'ont pas des grandes tournées, dont je fais partie, évidemment. Nous, on est obligé de vraiment beaucoup galérer. C'est connu. C'est connu. On est aidé aussi. C'est vrai que le statut d'intermittent du spectacle est bien confortable, mais il nous demande de... Il nous crucifie un peu quelque part en même temps. Donc on a les avantages, mais croyez-moi, on a les inconvénients de ces avantages-là. Mmh. C'est pas cadeau, c'est pas cadeau du tout, du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est dommage. Voilà, donc du coup, moi, depuis quelque temps, pendant 2 ans, là, j'ai écrit ce livre qui sort. Je me suis consacrée complètement à lui et j'ai complètement arrêté le reste. Mmh. Complètement, je ne suis plus intermittente. Et je me dis que, comme ça, je vais pouvoir revenir, mais pour le bonheur, quoi, pour... Parce qu'on me demandera et parce que j'aurai pas à chercher, parce que ça, c'est trop dur.
Et oui. Ouais. Donc on va y venir à ce livre, hein, puisqu'il il vient de paraître. On le trouve d'abord. Est-ce qu'on le trouve dans les librairies déjà? Est-ce qu'il y a des
séances? Ça serait bien qu'on en parle après, parce que là, je vais vraiment avoir à dire sur pas mal de choses qui le concernent. Le contenu, bien sûr. L'expérience Compostelle, bien sûr. Et peut-être aussi un petit mot, mais pas trop, sur la difficulté de la vente des livres, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Et c'est vrai que l'art, en général, et je veux bien le dire, aussi bien chanter qu'être écrivain, c'est compliqué. Mmh. C'est compliqué.
Alors, est-ce qu'on fait une pause avec Morane?
Oui, je veux bien Morane, parce que Morane est une voix qui me transperce, qui me touche énormément. Je ne suis pas la seule, hein. Ces chansons sont souvent pas forcément ce que je préfère. Mais vraiment, elle a une voix extraordinaire. Et donc, je veux bien... Tiens, on pourrait par exemple écouter la première. Pourquoi pas?
Alors, on écoute Morane. Et vous êtes toujours avec Flora Berger et moi aussi, et j'en suis ravie. Et on parle de son livre dans quelques instants.
De tourner, je t'emmènerai tranquille de ville en île, le nez en l'air pour retrouver l'été. Si aujourd'hui la mer devait s'évaporer, je trouverais dans ma poche une perle, une pioche, et je sèmerais des fleurs sur les fonds balnéaires. Et si demain matin tu cessais de m'aimer, je ne peux pas dire que j'en mourrai, non, faut rien exagérer. Je crois seulement que j'aurai l'air d'un casino désert, d'une chaise à l'envers, oubliée sur une. Je crois que j'aurai l'air assez minable. Si aujourd'hui le vent se mettait en soufflait immensément, on irait aux étoiles, dans ma navette à voile, pour voir un clair de terre. Si aujourd'hui le ciel devenait un brasier, je te ferais flamber des soufflets d'ailes d'ange à la liqueur de miel et aux zestes d'orange. Mais si demain matin tu cessais de m'aimer, je ne peux pas dire que j'en mourrais, non, faut rien exagérer. Je crois seulement que j'aurais l'air d'un casino désert, d'une chaise à l'envers, oubliée sur une table. Je crois que j'aurais l'air assez, assez minable. De vivre en buvant dans tes yeux, je suis sûr que je ferais un fantôme très heureux.
Morane,
belle voix, belle
une grande voix.
Ouais.
Vous aimez les grandes voix et vous parliez tout à l'heure d'une qui est très à la mode en ce moment aussi. C'était laquelle vous qui c'est plus c'est pas disco mais
ah oui, Whitney Houston.
Whitney Houston.
Oui, j'avais amené. Ouais.
C'est un style encore très différent.
Oui, c'est la musique du Bodyguard. Mmh. Ouais. Ah ouais, mais c'est des voix, waouh, ça déménage quoi. Mmh. Moi, je regarde The Voice.
Ah oui.
Ah, je suis une fidèle de The Voice. Mmh. Et je m'éclate, je me régale, je suis partie prenante, je crie, j'applaudis.
Vous votez aussi ou pas
ça se... Non, je vote pas, non. Bon, ça me gonfle.
Ouais. Je sais pas si ça se fait d'ailleurs.
Moi, j'ai essayé une fois, mais c'est un attrape-couillon, on vous envoie d'un truc à un autre, à un autre, à un autre. Ça n'en finit pas, ça me casse les pieds, non. Je suis juste fan de l'émission.
D'accord. Il nous reste encore un petit quart d'heure avec vous, Flora Berger. Moi, j'ai bien envie qu'on en vienne à ce livre,
ah bah oui,
puisque
moi aussi,
c'est, hein. C'est quand même votre dernier né.
Oui, il est en train de sortir. Hein,
Le chemin comme il vient, il y a une très jolie couverture avec un fond taupe et puis une image. C'est vous avec les ânes ?
Oui, c'est le lac de Serpenson, puisque donc ce chemin qu'on appelle la Via Domitia, qui est le chemin qu'empruntaient les pèlerins italiens quand ils se rendaient à Compostelle en passant par Arles ou en passant par Avignon aussi, ils empruntaient plus ou moins ce tracé. Mais plus ou moins forcément, à l'époque, il n'existait pas des GR hein, comme aujourd'hui. Et donc les chemins, c'était plus ou moins par là. C'était pas quelque chose de très précis, hein, il faut pas s'imaginer. Et ils allaient de cathédrale en cathédrale, d'hôpital en hôpital aussi, parce qu'il y avait d'hébergement en hébergement, parce qu'il y avait des hébergements spécifiques pour les pèlerins. Et c'est comme ça qu'on a pu trouver les tracés des chemins. Hein, il n'y avait rien de tracé, d'écrit à l'époque. C'est à travers tous ces lieux de culte et ces lieux d'hébergement. Voilà.
Donc, le chemin comme il vient, des Alpes à l'Atlantique vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est difficile d'écrire... ça a été difficile d'écrire ce livre ?
Alors, difficile... quand on veut faire un récit de voyage... de deux choses l'une, où on n'a pas pris de notes, on n'a pas enregistré, on n'a rien fait et on a du mal à se rappeler les choses, ou comme moi on rapporte énormément de matière et après cette matière il faut que ça mûrisse énormément pour trier dans la matière parce qu'on ne peut pas tout garder, et pour donner l'essentiel, voilà, tout en ne faisant pas non plus un résumé. C'est ça qui est difficile dans le récit vécu. Et donc, en fait, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut écrire et reprendre et laisser reposer, reprendre, laisser reposer, reprendre, laisser reposer, reprendre. Et là, le bouquin, il était complètement fini. Je l'avais déjà envoyé à plusieurs éditeurs. Et l'éditeur qui a fini par m'éditer m'a obligé à reprendre quelque chose. Bon, j'ai pas besoin de raconter quoi, c'est peu importe, hein, à ajouter quelque chose, à aller plus loin, en fait, dans la confidence. Voilà. Il a voulu que je me livre un peu plus. Et j'ai tout repris, et ça m'a pris un an de plus, quoi. Et je regrette pas, il a bien fait. Hein. Franchement, il a bien fait de me pousser comme
Donc
ça.
Donc on est un peu au service de son éditeur.
Ben, disons que lui, il faut qu'il soit emballé. S'il vous dit, Flora, quand même, moi, j'aimerais que tu ailles un peu plus. Allez, livre-toi un peu plus, creuse un peu ça. Eh bien, vous prenez votre bâton de pèlerine, votre stylo de pèlerine, et vous faites comme il vous dit. Et s'il a été de bons conseils, ben, ça améliore énormément le bouquin. Mais il était déjà écrit, il était déjà parti chez des éditeurs, hein, le plus gros. Hein.
C'est difficile de faire le tri, de supprimer des choses,
et
non ?
Oui. Et puis de le rendre passionnant. Il faut que le lecteur ne s'ennuie pas. Et puis, il faut l'enrichir aussi. Mais moi, j'avais pris énormément, énormément de notes. Mais j'ai eu énormément de pensées philosophiques. Hein. C'est un livre de maturité, celui-là. C'est mon 17e. J'ai 60 ans. Mmh. Quand j'ai mis un point final à la première mouture, j'avais 59 ans. Et quand j'ai fini de marcher aussi. Donc, c'est un livre de maturité. Et le titre, Le chemin comme il vient, signifie que non seulement il a fallu que j'apprenne à prendre, à accepter le chemin comme il vient, c'est-à-dire à pas me rebeller, à pas arrêter de râler, à pas me décourager, parce que c'est dur quand même, hein. 1540 km à pied, c'est quand même très dur, hein. Il y a des moments, faut pas croire que c'est tout rose, youpi, tralala, hein, pas du tout, hein. Surtout que j'ai quand même un genou qui me fait très mal. Bon, c'est quand même dur. Puis il se passe des tas de choses, hein, surtout quand vous êtes une femme seule ou seule avec un âne. Oh, il s'est passé vraiment beaucoup de choses.
Il y a plutôt positives.
Des positives, mais il y en a aussi des moins, ça, moins ça, ça craint un peu. Il y a des choses qui ont fait peur,
ah oui,
par moment.
Ah oui.
Quand même. Oui, oui, oui.
Beaucoup de rencontres.
Il y a un peu des risques par moment, quoi, hein, ça c'est certain. Mm-hmm. Même avec le climat, hein, avec mm-hmm. la météo, je veux dire. Et donc, j'ai perdu le début de ma phrase, de mon propos. Et donc,
c'est le livre de la maturité,
oui.
C'est qui a permis le lâcher prise.
Voilà, et ça, j'en voilà. étais au titre.
Voilà.
Donc, il faut accepter, parce qu'on n'a pas le choix, hein, mais ça ne veut rien dire, ça. On a le choix de la façon dont on va prendre les choses. Voilà.
Oui.
Ça,
mmh.
oui.
Mmh.
Les choses, elles sont là, d'accord. Mais après, la façon dont on va leur faire face, ça, c'est le choix qu'on a. Et il vaut mieux faire le meilleur choix. Et ça, c'est pas évident. Moi, je suis quelqu'un quand même qui se rebelle, qui se rebiffe.
Fonceuse.
Je suis une râleuse. Je suis une râleuse. Hein. Ça, alors là. Hein. je pique des colères. Moins avec l'âge, hein, mais quand même, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup à travailler, ça, beaucoup, parce que j'ai le lait qui monte. Hein. Et ça, quand on est comme ça de nature, c'est très dur, hein, d'aller contre sa nature. Hein. Voilà, et ce chemin, et mon âne, surtout mon âne, m'y a obligé. Il m'a obligé, il m'a mis en face d'une réalité avec laquelle il fallait absolument que j'arrive à faire avec. Lâcher prise, c'est un mot qui est à la mode, mais qui signifie beaucoup. Il faut apprendre à lâcher prise et prendre le chemin comme il vient. Mais c'est le chemin en marchant, c'est le chemin de vie aussi, bien sûr.
Et c'est ce chemin qui vous a permis de lâcher prise, ou c'est l'écriture, ou c'est les deux?
Ah ben, il a fallu que j'ai été obligée de... Je suis partie avec ce vœu-là. Hein, attention, hein, mm-hmm. C'est très important. J'en parle dès le début du livre et tout le long du livre, on le retrouve. Je suis partie avec un vœu parce que je me suis dit partir sur le chemin de Compostelle. Si on n'est pas quelqu'un de très religieux, il faut au moins avoir un travail intérieur qu'on va travailler tout le long du chemin. Et ça s'est étalé sur 4 ans quand même. Hein. Et ce travail, pour moi, c'était, je peux le dire, hein, c'est pas un mystère, c'était patience-acceptation. C'était donc essayer de mater un petit peu ou d'adoucir cette nature que j'ai qui était un petit peu violente, rebelle.
Volcanique.
Hein. Voilà, et on a beau vieillir, bah, si on n'a pas fait le travail, bah, il ne se fait pas tout seul, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça ressort comme la mauvaise graine. Les mauvaises herbes, on les arrache, elles sont toujours là. Et donc, il s'agissait non pas d'arracher, parce qu'arracher, ce n'est pas bien non plus, mais plutôt de trouver le moyen, de trouver... cette philosophie qui va permettre d'agir autrement et d'être plus serein. Hein. Bon, il est temps, hein, à 60 ans. Mais on est encore tellement jeune à 60 ans. On est encore jeune, hein, finalement. Et donc, ce voyage, effectivement, petit à petit, et pour toutes sortes de raisons, vraiment tout le long du livre, on est avec moi, avec ce travail. Et quand je suis revenue, c'est vrai que j'étais quand même un peu changée, mais pas complètement. Hein. Mais en tous les cas, c'est présent en moi, je veux dire... Je suis encore cette pèlerine et je fais encore ce travail. Et vraiment, j'ai quand même avalé un peu des couleuvres là sur le chemin. Mais du coup, c'est passionnant parce qu'il se passe plein de choses. Et on le lit comme un roman, complètement comme un roman, quoi.
Le chemin comme il vient, donc un voyage que vous avez fait sur le chemin de Compostelle, seul avec deux ânes.
Il y a plusieurs façons de faire. Au début, on était deux femmes, une chienne, deux ânes. Après, il y a eu un passage pour des raisons accidentelles où j'ai été seule. Après, on a été de nouveau avec cet ami et un autre chien, et ta. Après, j'ai été seule avec mon âne, alors ça a été le plus long. Et après, à la fin, pour des raisons aussi d'incident, j'ai été seule complètement. Et c'est ce qui s'est passé aussi, c'est que...
Seul complètement, les ânes plus.
Ouais, non, à la fin, les 10 derniers jours, hein, j'étais complètement... les 15 derniers jours, j'étais toute seule. Et en plus, étonnamment, puisque les gens qui font le chemin de Compostelle, il n'y a pas le, mais le plus connu, on va dire, celui du Puy-en-Velay, c'est un chemin de rencontres extraordinaires. Alors moi, j'ai eu des rencontres extraordinaires avec les gens... qui m'offraient à boire, qui m'offraient à manger, qui m'ont aidé, qui me montraient le chemin, etc., etc. Mais par contre, j'ai rencontré, grosso modo, deux pèlerins en 1540 km. Ça paraît inouï. Mm-hmm. Pas de pèlerins. C'est un chemin de solitude. Les deux chemins que j'ai faits sont trop nouveaux ou nouvellement retracés pour qu'il y ait du monde. Du coup, on est extrêmement seul. Et la solitude que je recherchais au départ m'a poursuivi d'une telle assiduité qu'à la fin, je ne pouvais plus l'avoir, quoi.
Et pourtant, c'était là, à la fin, les 15 jours seuls.
Oui, vraiment complètement. Seul. Mais du coup, je suis revenue avec un besoin, une envie de l'autre que je n'avais peut-être pas suffisamment. Et du coup, j'ai eu ça en cadeau. Et c'est un beau cadeau.
Un beau cadeau, un beau voyage.
Ah oui, c'est complètement très riche. Et voilà.
On va se quitter...
Oui,
là-dessus.
On peut peut-être donner.
Alors bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Donc qu'on peut bien sûr commander ce livre.
Oui, et puis voir un peu tout ce que je fais.
Le chemin comme il vient sur votre site, c'est www.flora-conteuse.com.
Voilà.
Très facile à trouver.
Et même si on tape Flora Berger sur Google,
ouais.
Ça vous sort des tas de pages, donc on le trouve, même en mettant que ça, Flora Berger sur Google, ça suffit.
Et on retrouve aussi tous les écrits, tout ce que vous avez fait.
Tout.
Voilà, Flora Berger, merci beaucoup. On va se quitter avec, donc je précise aussi pour les auditeurs qu'on retrouvera cette émission en ligne sur le site de Fréquence Mistral Digne, d'ici, on va dire, allez, après-demain, hein, pour me laisser le temps de faire le montage. Et super. Puis on va écouter Joan Baez pour terminer.
Ah oui, superbe chanteuse.
Au revoir, à bientôt.
Merci beaucoup, au revoir à tout le monde.
Jesse, come home. There's a hole in the bed where you slept. Now it's growing cold. Jesse, your face in the place where we lay by the hearth, all apart. It hangs on my heart, and I'm leaving the light on the stairs. No, I'm not scared. I wait for you. Hey, Jesse, it's lonely. Come home.
Λιγάκι, μα δεν θα με έκανε να κλαίω σαν παιδάκι.